Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Une mère mannequin, un père champion de boxe, est autodidacte de la mode, est issu d'une famille d'artistes et de sportifs. Il est aujourd'hui le premier créateur de mode d'Afrique subsaharienne à figurer sur la liste de la Fashion Week Haute Couture de Paris. Sa nouvelle collection printemps-été sculpte des silhouettes à la beauté métissée, dont les drapés des robes rappellent le noué des pagnes africains. Sa dernière collection automne-hiver mélangeait le lin, la soie, la viscose, aux broderies, mais aussi au raffia et à l'aubum du Cameroun ou au kente du Ghana. Imane ici est notre invité aujourd'hui dans VMDN et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Imane ici.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait 4 ans maintenant que votre nom est inscrit dans le calendrier officiel de la haute couture parisienne. Vous y avez mis le temps, ça n'a pas été simple.
Oui, la route était assez longue. C'est pas simple tout ça. Il m'a fallu faire beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie à mettre.
Des dizaines et des dizaines d'années d'efforts, de travail pour y arriver. Parce que ça a pas, au début, vous avez un peu mangé de la vache enragée, comme on dit. Hein, quand vous avez connu des moments difficiles quand même. Vous n'étiez pas tout de suite au sommet du cocotier.
Ça n'a pas été évident. Les gens qui ne connaissent pas d'où je sors, qu'est-ce que j'ai fait avant, croient que la manne m'est tombée du ciel. Oui. Alors que non, j'ai 30 ans de travail derrière.
Oui. Vous avez même été sans papier, je crois, pendant quelques années. Donc, ouais. Il a fallu effectivement y aller très fort. 30 ans de travail dans l'air. Premier défilé en 92-93. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Imane Issi?
Rappelez-moi les dates.
1992-93, votre tout premier défilé.
Mon tout premier défilé à Paris, j'étais mannequin à Paris. Donc, j'étais mannequin, j'étais danseur aussi. Il faisait pas mal de figurations dans les plateaux de cinéma. Et je n'ai pas voulu être seulement un porte-manteau, comme on nous appelait à l'époque.
C'est pas très gentil comme expression.
En même temps, c'est marrant, les porte-manteaux. C'est...
Oui. c'était pas comme toujours ça. Très souple, mais c'est utile.
C'était comme ça. Et je me projetais déjà, je me disais, je savais dessiner un peu au Cameroun, je savais faire pas mal de choses, je savais coudre. Et j'adorais voir les défilés de mode des grands designers qui ont animé la vitrine du monde du luxe. Quoi. Je pourrais citer Saint Laurent, Chanel ou Dior. Et je voulais faire comme eux. Donc tout de suite, j'avais fait des heures de ménage, j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais trouvé un tissu qui me plaisait et j'ai aligné 120 robes, que des robes à poids. Donc j'ai fait mon premier défilé à Paris comme ça, avec les 120 robes à poids. Ça veut dire que tous les invités qui étaient venus voir mon défilé, ils ont vu les 120 robes passer. À la fin, ils avaient les yeux qui scintillaient les poids.
Bon, alors beaucoup de fierté, hein, j'imagine, vu l'endroit où vous êtes arrivé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier, mais est-ce que c'est aussi une responsabilité que d'avoir comme ça son nom inscrit dans cette Fashion Week Haute Couture à Paris, et en plus être le premier Africain?
Je crois que c'est pas facile à porter quand on est en tant que premier noir d'Afrique subsaharienne à figurer dans le calendrier officiel de la haute couture française parisienne en tant qu'invité. Pour moi, c'est un devoir, c'est une fierté, c'est une reconnaissance inouïe parce que c'est une porte qui nous a été fermée pendant des décennies. Et cette fois-ci, cette porte est ouverte, donc ça s'ouvre. Les travaux des Africains, les jeunes talents, ceux qui s'intéressent aux métiers qui concernent la mode, tout le monde. Je crois que les regards sont retournés vers toute l'Afrique maintenant.
C'est la société française qui a changé ?
Les choses avancent, bien sûr, les choses avancent, petit à petit, quoi qu'il arrive. On va voir, par exemple, il y a 30 ans, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu voir sur les podiums autant des mannequins noirs mis en valeur, même dans les couvertures des magazines les plus importants. Est-ce qu'on peut encore dire qu'on ne voit pas assez des noirs? On voit les noirs, mais il faut aussi que les noirs, nous-mêmes, nous devons consommer la mode et comprendre comment fonctionne la mode et donner la chance à tous les jeunes créateurs, à tous ces jeunes qui s'intéressent au métier de la mode et les consommer. Et il y a aussi toute une éducation qui va avec.
Alors, vous êtes autodidacte, on le disait, Imane Issi, mais la mode, vous avez quand même un petit peu grandi avec. C'est un peu dans la famille.
Oui, j'ai grandi avec, mais il y a des codes à prendre aussi. Les codes, c'était un peu comme ci, comme ça. Moi, si on veut faire la mode professionnellement, je pense que si on a les moyens ou la chance de s'informer, de se former, pardon, et d'avoir des bonnes informations, Il faut s'informer, il faut peut-être aller faire les études de mode, ça se fait. Et pas parce que les jours à venir, ça s'annonce très dur. Donc, les jeunes qui s'intéressent au métier de la mode, je pense que c'est plus intéressant qu'ils soient formés.
Mais vous-même, comment est né votre intérêt pour le vêtement ?
Mon intérêt pour le vêtement, c'était d'abord, j'avais une belle fée à la maison, ma maman.
Voilà. Donc, j'ai commencé Julianne Honorine et Yenga Funda, reine de beauté. Exact. Première Miss Cameroun de l'indépendance.
Il n'y a pas mieux gâté que moi.
Voilà, donc c'est pas mal. Bon sang ne saurait mentir, dit le proverbe. Donc elle savait défiler, elle s'intéressait à la mode.
Elle a une élégance inouïe. C'est même difficile, on ne peut pas la décrire comme ça. C'est quelque chose à vivre quand on voit de tels personnages. Quand je pense à elle, je pourrais penser à une femme comme Katusha. Comme il y en a des personnages comme ça.
Il y a beaucoup compté pour Yves Saint-Laurent en particulier.
Ouais,
et dont vous étiez très proche.
Hein. Exactement. Donc, c'est des personnages que quand on les voit, elles captent les gens. Tellement elles sont humaines, tellement il y a une élégance et une nuit. Donc, ce qui m'a attiré envers ma maman, c'était le gestuel, la facilité de mettre certaines choses en valeur, même si ce n'était pas grand-chose. Hein. Ça pouvait être qu'une étoffe qu'elle a enroulée autour d'elle pour faire un drapé, quelques bijoux, tout ça. Et ça m'a interpellé. Et tout de suite, j'ai commencé à voir aussi avec tout son entourage, ses sœurs, ses cousines, pendant les tontines des femmes pour faire la banque façon africaine tous les mois, une fois tous les mois, dont les femmes se réunissent et cotisent pour aider à développer une affaire. Après la cotisation, elles vont boire, elles vont danser. Et là, on voyait vraiment l'élégance dans tous ses états. Les coiffures, les sacs, les chaussures. Et ça m'a énormément interpellé. Et j'ai commencé à dessiner très tôt sur le sol, avec les bâtonnets sur le sable et tout, ainsi de suite. Et je vais finir par piquer les robes de ma maman. Je les découpe pour essayer de voir comment c'était fait et pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur.
Voilà, curiosité d'un enfant qui, plus tard, va utiliser tout ce qu'il a appris de façon très empirique pour créer et pour devenir effectivement une figure de proue de la mode sur la scène parisienne. Alors, votre choix de styliste, Imane Naïssi, c'est aussi de mettre en valeur les matières africaines. Alors, parmi vos matières favorites, il y a l'obom. L'obom, c'est un tissu de la forêt, hein. C'est une écorce d'arbre qu'on retrouve dans les forêts équatoriales africaines. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette matière ?
C'est d'abord le côté authentique, le côté brut, le côté pour montrer qu'avec les choses très simples, les choses brutes, on peut. Ces choses-là, elles ont aussi une place dans le glamour, dans le monde du glamour. C'est à nous de faire la démarche, d'observer, de savoir les contourner, les transformer et de les mettre de leur donner leur lettre de noblesse.
Donc vous découpez l'écorce ? Vous les teintez, c'est une matière assez malléable, c'est une matière facile à travailler.
C'est assez rustique. Rustique. Oui. Donc quand on coupe l'écorce, on n'est pas forcément, c'est pas forcément qu'on va couper l'arbre en elle-même. On dépaisse l'écorce et l'écorce se régénère. Donc cette écorce qu'on
a coupée. Il n'y a pas de dégâts écologiques.
Non, il n'y a pas de dégâts. Je crois que c'est un peu à l'ancienne. Les anciens avaient vu comment manipuler la chose sans faire trop de dégâts. Et après, cette écorce va être manipulée, lavée, tapée, dressée pour lui donner sa souplesse. Et après, quand moi je le reçois, je le redresse à ma manière. Je le repasse, je le tends, je le tire. Après, je vais commencer à faire les formes. Je peux faire des fleurs, je peux faire tout un tas de formes que je veux. Après, je les colorie.
Vous utilisez aussi le raffia hein, pour les vestes, pour les manteaux.
Le raffia, j'adore. Le raffia, c'est aussi pareil, parce que le raffia, c'est une matière brute hein, et qui arrive, quand on veut le chercher à la forêt, c'est très rustique, ça abîme les mains quand on les travaille.
Oui, on se dit, c'est pas facile à travailler comme matière.
C'est très dur à travailler. Donc, quand ça a dépassé, quand c'est passé dans toutes ces étapes de travaux, donc ça arrive à l'état brut encore, on fait des jupes, les jupes pour faire les danses. Hein. Donc, après qu'on a fait les jupes, moi, je les défais encore. Donc, je les relave, je les redresse, on les repasse. Après, on commence à faire les couleurs. Après, on les coupe. Après, je peux faire tout ce que je peux faire avec pour faire des vêtements.
Vous utilisez du coton africain aussi ?
Aussi.
C'est pas trop cher aujourd'hui ?
Le problème du coton africain, c'est que il faut que nos États revoient le fonctionnement. Comment transformer le coton africain dans beaucoup de pays. Hein. Le Cameroun connaît beaucoup de problèmes par rapport à son coton. Je pense que dans les années 60-50, il y a eu des usines qui étaient installées dans pas mal de pays africains qui marchaient bien. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la plupart de ces usines-là sont tombées, ça ne marche plus. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas su évoluer avec le temps? Il n'y a pas eu le côté, ils n'ont pas su moderniser.
Puis il y a la concurrence chinoise aussi.
Énormément.
Vous ne regardez pas du côté de la Chine pour vous fournir un coton?
C'est mieux que ce soit le coton du pays. Et le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le coton africain sort de l'Afrique. On le transforme ailleurs et quand ça revient en Afrique, ça devient cher. Donc moi, en tant que designer africain qui a besoin de valoriser la matière africaine, moi, ça me pose problème. Donc c'est un appel à ce que nos États doivent revoir ce problème parce que ce n'est pas normal.
Alors il y a les matières africaines et puis il y a aussi les matières européennes. Est-ce que vous êtes un styliste du métissage, Imane, ici?
Moi, je dirais un truc, c'est que les Français doivent savoir. La France a tissé beaucoup d'histoires. Bien et pas bien dans beaucoup de pays africains. Donc, on ne va pas juger ou... je n'ai pas fait l'arbitre, je vais juste dire ce que je pense. Dans le côté bien, le bienfait, c'est que la culture française a été bien vue en Afrique, bien accueillie. Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, on allait à l'école ou pas, on apprenait à parler français à la maison ou dans la rue. Même l'éducation, la manière de se... Donc, il y a quelque chose qui s'était passé, il faut l'apprécier. Donc, moi, je vois ça comme ça et ça n'engage que moi.
Petit génie, Djengeli, nommé aux flammes, cette cérémonie qui célèbre les cultures populaires dans la catégorie révélation masculine de l'année et meilleur morceau de l'année. Les votes des flammes sont ouverts jusqu'au 25 mars sur internet lesflammeawards.com, soirée des récompenses un mois plus tard, le 25 avril. Plongeons à présent, Imane, ici, dans vos dernières collections, la collection automne-hiver. Je vous laisse prononcer le nom parce que moi, j'y arriverai pas.
Alors là, je vais vous présenter trois photos d'une collection, la précédente, qui s'appelle Ngiligidigenten, qui veut dire la forme ronde. Et une ligne. Et pourquoi? Parce que quand on crée, on peut toujours se reconnaître dans le travail de notre créateur, de notre artiste. Et chaque création commence toujours par une forme ronde ou alors une ligne. Et là, sur la photo, on voit un joli...
Vous avez trois photos devant vous que j'ai choisi. C'est vraiment mon choix personnel. Alors allez-y, décrivez-nous les modèles.
Vous aviez l'œil parce que vous avez bien choisi.
Ah bah merci, c'est gentil.
Donc on a la première photo, on a une superbe fille qui porte un pantalon large et qui tombe droit sur le sol. Elle a les gants jaunes, les gants qui montent très haut et un top brodé de rondelles de baume et repiqué de petites perles. Donc c'est le top est fait, tout est fait à la main. Il y a aucune ligne de couture à la machine. Tout est vraiment fait. Et c'est une silhouette très couture. La deuxième photo, on a une superbe mannequin aussi comme je les adore, vraiment l'élégance à l'état pur, très naturel, cheveux naturels, un petit chignon tiré à la nuque, maquillé légèrement. On a cette étole, cette cape de raffia qui est couleur marron terre, sur une jupe poisson en soie marron terre. Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que j'utilise aussi les matières européennes? Bien sûr que si. J'utilise de la soie, des dentelles françaises ou des tissus italiens ou tout ce qui me parle. Je touche à tout les matières qui me parlent. La troisième photo, on a une robe boubou jaune sortie avec les bottes en cuir et la robe boubou qui est vraiment une robe au Versailles qui tombe assez élégamment avec beaucoup de volume, avec un nœud posé de travers, un nœud fuchsia. Et la fille aussi, une fille vraiment la beauté à l'état pur, cheveux crépus, vraiment pour mettre aussi la femme noire en valeur sans trop de complications de maquillage.
Alors, trois modèles de la collection été alors ça, à présent
ça, c'est la
ici.
Dernière.
Alors là, c'est intéressant. Moi, ce qui m'a frappé, ce sont les drapés.
Ah oui, vous avez l'œil. Vous choisissez que des modèles incroyables. Et là, on a une robe grise, une robe d'histoire grise, drapée, et tout est coupé en biais avec l'oreille soulignée avec un nuage de plumes fait par mes petits doigts.
Personnellement, directement.
J'adore faire ce genre d'accessoires. Et on passe à la deuxième. Là, c'est la petite robe rouge qui a beaucoup marqué dans la presse.
Oui.
La robe rouge en soie, la taille est très soulignée. On a une broderie de raffia rouge qui traverse un peu le buste et qui retombe un peu sur la jambe et sur le dos. Et sur l'oreille, on a le même petit jeu de nuages de plumes accrochés sur une petite chaîne. Et les escarpins rouges, c'est porté par la sublime Nala. Et là, la troisième jolie jupe kente, du kente que je fais fabriquer au Ghana, avec les artisans au Ghana. Le top est fait en soie, l'accessoire aussi nuage de plumes accroché sur une chaîne. Et escarpins jaunes. Et les quintés, je précise que c'est énormément de travail. C'est un tissu très noble du Ghana et on le tisse à l'ancienne. Et c'est des bandes. Quand je le reçois, j'ai fait le choix de couleurs, les soies de broderie, les fils aussi. Et quand je le reçois, au final, je le reçois en bande. Donc, la composition du pagne, je le fais à l'atelier. Quand on fait un pagne, après, on peut faire la pièce qu'on a besoin de faire, soit une jupe, soit un top, soit une robe, soit un manteau, soit une veste.
Qu'est-ce que la beauté pour vous, Imana, ici? Parce que là, vous vantiez la beauté de vos mannequins, il y a aussi la beauté des modèles. Évidemment, mais c'est quoi la beauté pour vous?
La beauté, c'est une très bonne question. La beauté, c'est quoi exactement? L'élégance, c'est quoi? C'est soi-même. Celle en prise en compte de soi-même, les valeurs de ce qui nous appartient, de ce que nous représentons. La beauté, c'est pas seulement le plastique. Hein. Je pense que la beauté, c'est aussi intérieur. C'est plein de petites choses qu'on peut...
Alors justement, j'ai posé la question, c'est intéressant sous votre réponse, parce que j'ai posé la même question à la poétesse Kiyemis, qui comme vous a des origines camerounaises, et voici ce qu'elle nous a répondu.
Je crois que la beauté, c'est un vendredi après-midi. La beauté, c'est un ciel à 19h en mai, un ciel rose. La beauté, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous émeut, c'est ce qui nous fait rêver. Parfois, ça peut être vraiment très exclusif, mais justement, je pense que c'est une vision très restrictive de la beauté. Quand elle est exclusive, quand elle oublie des corps, quand elle met de côté des corps, parce que justement, la beauté, je crois qu'elle se voit partout.
Mais la beauté dans un défilé de mode, elle ne peut pas se permettre de mettre les corps de côté.
Je crois qu'on a fait en sorte que, justement, au contraire, dans beaucoup de défilés de mode, on a mis en valeur un certain type de beauté, une beauté assez étroite, je dirais. Et c'est pas pour dégrader les corps qui passent, hein, mais c'est justement, c'est dans les défilés de mode, il y a un certain type de beauté qui est mis en valeur. Des corps plutôt minces, plutôt jeunes, plutôt valides, plutôt blancs aussi, il faut le dire. Mais c'est un peu en opposition avec mon idée de beauté.
Donc vous le regrettez?
Oui, je le regrette beaucoup, parce que je pense que la beauté, c'est large, c'est vaste, c'est différent, c'est une mosaïque. Mais c'est évidemment une définition de la beauté qui est assez ambitieuse et qui demande de remettre en cause beaucoup de choses. Parce que je pense que beaucoup de gens tirent avantage du fait que la beauté soit aussi... Enfin, ce qu'on considère comme étant la beauté est restrictif. Parce que, en fait, quand c'est le cas, la beauté, souvent, ça classe qui est beau, qui n'est pas beau, qui peut s'habiller, qui ne peut pas s'habiller, qui est l'élite et qui est la populace. Moi, je crois pas à ça. Moi, je suis pour démocratisation de la beauté.
Est-ce qu'il y a une beauté africaine ?
Alors moi, j'ai toujours peur des unes, des là, des quelque chose qui serait assez réducteur. Faut pas quand même oublier que le continent africain, c'est quand même 52 pays ou 53, je me souviens même plus. C'est très, très vaste. Ne serait-ce que juste au Cameroun, puisque moi, je suis originaire du Cameroun, il y a quand même 283 langues. Donc, j'imagine 283 manières de dire la beauté. Donc, voilà. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est que pendant très longtemps, les représentations de ce que pouvait être la beauté venant du continent et issue des continents, donc je dirais plus dans les diasporas, étaient mises de côté. Et j'ai l'impression que ça change de plus en plus et qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans puisque je suis poétesse, donc je vois la beauté d'une autre manière. Mais ce que je vois, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de défilés, il y a de plus en plus de choses et je pense qu'il faut la valoriser au maximum. Enfin, valoriser ses beautés, ses représentations de la beauté, ses discours sur la beauté au maximum. Parce que la beauté, c'est aussi un soft power.
Vous êtes d'accord, Imana, ici ?
Oui et non.
Alors allez-y. Répondez-lui.
J'adorais la manière qu'elle a décrit. Elle a décrit les choses dès le départ. Et après, la mode, c'est un concept. Et quand on fait la mode, on choisit qui on habille. Je ne peux pas habiller tout le monde. Je suis désolé. Et aussi, on fait une étude de marché et on s'adresse à une clientèle qu'on a choisie. Et quand on dit la beauté africaine, comme certains, on a collé une image à la femme africaine qu'elle est forcément ronde, qu'elle a les...
Avec des belles formes, voluptueuses.
C'est très faux. L'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. Donc, d'un point à l'autre, il y a une variation de personnes. Par exemple, dans mon ethnie, dans ma famille à moi, il n'y a jamais eu des gens avec des formes généreuses. Tout le monde a été mince. Donc, ça dépend. Donc, le travail que moi j'ai fait de l'éducation que j'ai eue de la haute couture, c'est d'abord que on travaille sur des silhouettes très menues. Après, on reçoit des clientes, même s'ils ne sont pas menues, elles vont adorer. Et les mêmes clientes vont dire je vais acheter cette robe. Donc, on va essayer de mettre la même robe sur une femme, les morphologies qui ressemblent à la personne. Elle dit non. Elle veut voir comme dans le défilé, il faut le faire rêver. Donc, ça dépend des gens.
Donc, votre métier, c'est de faire rêver ?
Aussi, bien sûr, la haute couture, c'est ça. Aussi, on vend des belles choses, on amène des gens dans un rêve, on les éblouit. Et puis après, ça dépend qui achète quoi. Comme je disais, certaines clientes qui ne veulent pas voir la robe qu'elles veulent mettre dans un cours qui la ressemble, elles veulent voir un mannequin à l'ancienne, quelque chose qui la fait rêver, et on va réadapter ce modèle-là dans sa morphologie, dans ses formelles.
Make I check my conscience before I go do nonsense. Cause these days I be moving crazy. My eyes red, I define my money. Make you know they taste my patience, oh. Cause I'm a work in progress, oh. Don't stay for that thing, no be lying. All day put my life on the line. I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. But I shut that door. Hey, I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. But I shut that door. I'm slow and steady, baby. Slow and steady, baby. Cause I believe in my life for me. They can't take it from me. J'aime pas les wahala. I know like you palava. Chocoloco bango she. Time no day. So I give my all day. Grateful for another day. On my way. Can't keep my vibes no way. Chocoloco bango she. Time no day. So I give my all day. Grateful for another day. On my way, can't keep my vibes. Make I check my conscience before I go do nonsense. Cause these days I be moving crazy. My eyes red, I define my money. Make you know they taste my patience, oh. Cause I'm a work in progress, oh. Don't stay for that thing, no be lying.
All day put my life on the line. I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. But I shut that door. Hey, I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. But I shut that door.
Bounce Back Wakaman dans la playlist RFI et dans VMDN avec le styliste Iman Aïssi aujourd'hui. Alors, on le disait, avant d'être styliste, vous avez été danseur, vous avez participé, je vérifie mes infos, vous me dites si c'est vrai, vous avez participé à la Saga Africa, à la tournée de Yannick Noah, vous avez dansé avec Patrick Dupont,
oui.
C'est quand même plus que pas mal, Patrick Dupont, ouais. Avec plusieurs artistes africains aussi dans leur tournoi. Et puis j'ai appris aussi que la doublure de Seal
avec Mylène Farmer
de Club Lémo, c'était vous.
Oui.
Ah, ça, c'est extraordinaire. Ouais,
c'était une très belle histoire. Ça, Mylène avait, ils avaient vu une de mes photos. On avait un ami commun et c'est arrivé au moment où il y avait eu les attentats aux États-Unis, dont la plupart des gens aux États-Unis ne voulaient pas prendre l'avion. Donc, elle venait de faire ses duos avec Seal, et Seal ne pouvait pas venir. Donc, quand elle voit ses photos, même sa production, ils avaient demandé est-ce qu'elle pouvait accepter de jouer le rôle de Seal, de faire la doublure. C'était une bonne occasion. En plus, Mylène, c'est une très bonne artiste.
Ah oui, ça, c'est... voilà. Donc, c'est une très belle histoire. Ben justement, cette expérience de danseur, et donc cette expérience du corps, est-ce qu'elle vous a été utile dans votre travail de création, dans votre travail de styliste aujourd'hui ?
Tout à fait, tout à fait. La liberté de l'expression du corps. Quand on crée un vêtement, on le crée. On parlait des morphologies tout à l'heure. C'est très important qu'on a un corps avec des formes un peu volumineuses ou alors on a un corps mais assez étroit. Le corps a besoin de bouger. Et quand le corps bouge, auparavant, avant qu'on ne connaisse tout ce qui est tissu, tout ça, les gens vivaient nus. Les gens vivaient à l'état brut, à l'ancienne époque. Mais le monde a évolué aujourd'hui, donc il y a tout un tas, en tout cas la matière qu'on doit adapter à ce corps. Et comment on doit l'utiliser? Donc on doit créer, mettre des idées en jeu, créer. Et on découpe, on coud, on fait des essais, on fait les moulages sur les stockmans et tout, les essayages et tout. Au final, et quand on a fini la création, on le met sur un mannequin vivant, le vêtement prend vie. Et ça va prendre vie comment? Parce que ça bouge aussi en fonction de la personne qui va le porter dans le corps, l'aisance du corps.
À l'automne dernier, Iman Aïssi, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation et la Culture, a publié un rapport qui souligne le potentiel incroyable du secteur de la mode sur les continents africains. Est-ce que vous croyez, vous, que les créateurs indépendants africains ont un avenir, pas seulement en Europe, mais sur le continent?
Mais l'UNESCO a raison de mettre le doigt là-dessus parce qu'il fallait ça à un moment donné. Parce que les gens, ils ont tendance à croire qu'ils vont me demander aussi pourquoi toi-même tu es parti en Europe, pourquoi tu n'es pas ici. Chacun son histoire. Donc, l'Eldorado, ce n'est pas ailleurs. Ça peut aussi être dans les pays africains. Donc, il faut redonner l'espoir à toute la jeune génération. C'est pour ça que j'ai parlé de la formation tout à l'heure. Les bonnes informations, la formation, la santé, la sécurité.
Et vous formez d'ailleurs, je crois, au Cameroun. Vous avez engagé des actions de formation.
Oui, avec le CCMC. Le CCMC au quartier...
Le Centre culturel de la mode camerounaise.
Exactement.
À Yaoundé.
À Yaoundé. J'ai bossé avec depuis 12 ans ou 13 ans. Je vais tous les ans pour aider à faire des masterclass et puis faire la direction artistique depuis la première date.
Donc les idées, elles sont là.
Les idées, elles sont là, mais il faut la compréhension de nos états. Et je crois que ça concerne tout le monde, pas seulement nos états, parce que moi, j'ai pas attendu les politiques du Cameroun pour faire ce que j'ai à faire. Les gens doivent dire que pour qu'un pays avance, on ne dirige pas un pays tout seul. Je crois que tout le monde est dans un pays responsable à sa manière et à son niveau. Donc, il faut bien éduquer les gens et que les gens changent aussi de mentalité. Parce qu'à une époque, c'était genre, si on fait de la couture ou le métier de la coiffure aussi, si c'est là, c'est qu'on n'a pas assez fait bien dans les bancs des écoles. Ben non, en même temps, ce qui est fou, c'est que la plupart des gens s'habillent. En plus, ils aiment s'afficher avec des vêtements des grandes marques. Donc, ces grandes marques-là, c'est qui? Si ces gens-là n'étaient pas devenus Saint-Laurent et autres pour s'afficher avec leur nom. Non, les mêmes Saint-Laurent ou Chanel ou Lanvin, aussi les fabricants en Afrique. nos Saint-Laurent à nous.
Mais est-ce que les investisseurs africains sont prêts justement à aider ces créateurs?
Mais j'aimerais les voir. Moi, ça fait longtemps que moi, j'ai vu personne. Hein.
Donc non, la réponse est non. Il y a encore beaucoup de travail pour y arriver.
Il y a quelques investisseurs africains. Mais je ne pense pas qu'il y a tant que ça. Je crois que la route est longue. Il faut que, comme je parlais au sujet de la mentalité, les gens doivent se rééduquer aussi et prendre conscience que la mode, ce n'est pas un jeu. C'est un vrai métier très noble et ça brasse énormément, énormément le pouvoir d'argent. Regardons la Chine qui s'est réveillée il n'y a pas très longtemps, hein. Et la Chine qui brasse énormément de choses au niveau de la mode. Ils fabriquent, que ce soit du contrefaçon, que ce soit des choses leur propre création imaginée par eux-mêmes, c'est énorme. Alors qu'en Afrique, l'Afrique a toujours connu l'esthétique. Avec toutes les traditions qui existent en Afrique, je crois qu'il y a quelque chose à prendre vraiment en considération. C'est là où je rebondis sur l'UNESCO. L'UNESCO a bien raison d'essayer de cadrer tout ça et de donner la lumière à toutes ces jeunes créations, à nos dirigeants de penser que la mode, le savoir-faire africain, les artisans africains ont besoin qu'on pense à eux et il faut réfléchir à ce qu'on doit faire.
Merci, merci beaucoup Imane Aïssi d'être venu dans VMDN. On continuera évidemment à suivre de près votre travail.
Merci.
Quelques mesures du concerto pour violon et orchestre opus 36 d'Arnold Schoenberg, interprété ici par la violoniste Hilary Hahn, accompagnée par l'orchestre symphonique de la radio suédoise, dirigé par Esa-Pekka Salonen. Arnold Schoenberg, un compositeur de génie né en Autriche et dont on célèbre cette année 2024 le 150e anniversaire, l'occasion pour notre correspondante à Vienne, Isorias, de se rendre dans sa maison de Mödling. Mödling, ça se trouve dans la banlieue de la capitale autrichienne, maison surnommée le berceau de la musique dodécaphonique. C'est là en effet que Schoenberg développa ce système de composition tout simplement révolutionnaire. Reportage.
Né à Vienne en 1874 dans une famille juive, Schoenberg est un autodidacte. Il compose ses premières œuvres dans la tradition romantique allemande avant de franchir le tournant décisif vers l'atonalité. Les années qu'il passera dans sa maison de Mödling de 1918 à 1925 seront dès lors des années de recherche et de création intense, comme l'explique Heike Fess, archiviste au Centre Arnold Schoenberg.
Ce qu'on appelle l'atonalité libre a, dans un premier temps, énormément inspiré Schoenberg. Mais à un moment donné, cela l'a aussi un peu irrité. Il a alors cherché comment mettre les 12 sons de la gamme chromatique dans un nouvel ordre. C'est là qu'il a écrit une une pièce qui était composée pour la première fois selon la méthode dite aujourd'hui dodécaphonique. Cela signifie que ces 12 sons de la gamme sont disposés dans un certain ordre et que cet ordre est obligatoire pour toute la pièce. Schoenberg a d'abord pensé que ce qu'il avait composé là était une expérience extrême, passionnante et prometteuse, mais qui ne serait pas viable pour l'avenir. Le cheminement a en fait été très progressif. C'est un processus qui a duré 2 ans et demi. La méthode dodécaphonique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, il l'a développée ici, dans cette maison à Mödling.
Dans le salon de cette maison, les objets témoignent du génie protéiforme de Schoenberg. Outre de nombreux instruments de musique, plusieurs tableaux et une machine à écrire nous rappellent qu'il fut également un peintre passionné et un grand théoricien. Se trouve également dans la pièce une immense valise qui symbolise l'exil de Schoenberg. Il dut en effet quitter l'Allemagne en 1933 après l'accession au pouvoir des nazis.
Il passe ses dernières vacances en Europe, en France. C'est à Paris qu'il est revenu à la synagogue et à la foi juive. L'un des témoins de ce retour fut le peintre Marc Chagall. Comme on peut le voir sur cette valise, il embarque ensuite depuis Marseille pour New York, où on lui proposait d'enseigner. À partir de 1936 et jusqu'à sa retraite, il a enseigné à Los Angeles, à l'Université de Californie. Ses étudiants étaient vraiment des débutants, mais Schoenberg en a tiré le meilleur parti. On voit aussi que l'exil a joué un rôle dans la création de certaines de ses œuvres. L'exemple le plus évident est bien sûr l'ode à Napoléon Bonaparte. Schoenberg en a fait une pièce contre la tyrannie en général.
Alors que nous célébrons cette année son 150e anniversaire, Heike Fess a un espoir que Schoenberg soit à l'avenir joué plus régulièrement, car, insiste-t-il, sa musique peut s'adresser à tout le monde.
Schoenberg n'est pas réservé aux spécialistes. Il y a beaucoup d'œuvres de Schoenberg qui sont très accessibles, auxquelles on accroche dès la première écoute. Et je pense que cela explique en partie pourquoi Schoenberg a une grande influence sur les jeunes compositeurs. Il y a peu de compositeurs qui composent aujourd'hui des pièces dodécaphoniques comme Schoenberg lui-même le faisait, mais je crois que les jeunes compositeurs ont tous, d'une manière ou d'une autre, reçu la musique de Schoenberg. Il a élargi l'horizon et montré toutes les possibilités que nous avons pour créer de la musique.
Et tout au long de cette année 2024, de nombreux événements sont organisés autour de Schoenberg en Autriche, mais aussi en France, avec plusieurs concerts prévus à Lyon et à Paris dès le mois de mars.
Isoria Savienne pour VMDN et vous pouvez retrouver Maddy Isor, toutes les informations sur les concerts prévus à l'occasion de cet anniversaire en France sur le site internet schoenberg150.at. Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, vous allez nous parler du phénomène littéraire dont tout le monde parle actuellement, le nouveau roman de Joël Dicker.
Et oui, cet écrivain suisse révélé en 2012 avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui avait eu un succès planétaire, souvenez-vous, et une adaptation en série télévisée tournée aux États-Unis. Bref, l'auteur prodige est de retour avec son 7e livre, paru sous le titre Un animal sauvage chez Rosie & Wolf, sa maison d'édition.
Alors justement, vous venez de le mentionner, Catherine, la plupart du temps, Joël Dicker situe ses romans en Amérique du Nord. C'est aussi le cas pour le nouveau ?
Exceptionnellement, non. Le roman, ici, se déroule en Suisse, à Genève même, ville où il est né il y a un peu moins de 40 ans, où il vit toujours et où je l'ai rencontré, pour vous, sur ces terres. Je lui ai donc demandé si pour l'écriture de cette fiction, dont nous allons parler dans un instant, il s'était inspiré de lieux, de quartiers qu'il connaissait bien. Joël Dicker.
J'ai mis dans ce livre un endroit qui est un endroit très important pour moi, mais je l'ai mis de façon presque anecdotique, j'ai envie de vous dire. Il fait pas partie de l'intrigue. Je l'ai ajouté dans un deuxième temps. C'est l'avenue Bertrand. On y passe brièvement. Deux des protagonistes y ont pendant quelques années un appartement. C'est en face du parc Bertrand, c'est dans le quartier de Champel à Genève, et c'est la rue et c'est l'immeuble dans lequel ma grand-mère a vécu une très grande partie de sa vie et dans laquelle j'ai moi-même écrit plusieurs de mes livres, parce que quand j'ai commencé à écrire de façon sérieuse et intense, elle m'a proposé de venir prendre un bureau chez elle. Elle avait ce grand appartement dans lequel elle vivait seule. Et elle m'a dit, j'ai une pièce pour toi si tu veux. Donc j'ai passé plusieurs années avec elle, parce que je venais tous les jours, 12 heures par jour, dans lequel j'ai écrit plusieurs de mes livres. Et elle est décédée, donc on a rendu cet appartement qu'elle louait peu après son décès. Elle est décédée en 2014, on l'a rendu en 2015. Et d'ailleurs, le propriétaire de l'appartement, je lui avais dit, laissez-moi cet appartement encore quelques mois parce que je termine mon livre. C'était le livre des Baltimore. Et je lui ai dit, je termine mon prochain roman et j'aimerais le finir ici.
Confidence émouvante que vous a livré Joëlle Dicker. Catherine, un roman donc qui fait un clin d'œil à sa vie à Genève, une fiction purement suisse. Donc, alors c'est un petit peu cliché, mais on se dit qu'il doit être question de banque et d'argent, c'est le cas ?
Presque. Il s'agit ici de bijouterie avec comme point de départ du roman un braquage spectaculaire où deux personnes cagoulées font un hold-up dans une joaillerie où ils raflent des diamants roses pour un montant fabuleux. Alors, c'est une opération qui ne dure que 7 minutes, oui, mais qui permet à l'auteur de faire des allers-retours dans le temps pour raconter tout ce qui a conduit ces personnages à faire ce casse. Mais qu'est-ce qui intéresse Joëlle Dicker dans ce dispositif narratif ? Réponse de l'auteur.
Ce qui m'intéresse, c'est le tempo, c'est le rythme. J'ai eu une carrière de musicien très limitée, mais je l'ai eu quand même. J'ai été batteur dans différents groupes de différents genres.
9h05. Attention, c'est un hold-up.
Et je crois que j'aimais la batterie parce qu'elle garde le tempo ou qu'elle le donne. J'étais un batteur qui avait tendance à accélérer le rythme. À un moment donné, les autres me disaient oh, « mais t'es chiant, tu accélères toujours ». Et moi, je disais « oui, mais des fois, il faut accélérer ». Voilà, parce que pourquoi est-ce qu'un rythme devrait être stable ? Un rythme, il peut accélérer, même dans un morceau de musique. Et donc, je vous raconte tout ça parce que pour moi, le rythme et le tempo, il est très important.
On est entré dans la banque.
Et je vous raconte toute cette longue histoire, mais pourquoi un braquage ? Je suis en train de vous répondre. On dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est complètement fou ». Pourquoi le braquage ? Parce que tout ce qui m'intéressait dans ce braquage, c'était les 7 minutes. C'était se dire, j'avais envie d'écrire un roman autour du temps. C'est un roman qui, en plus, à la différence des autres, de mes autres livres, est plus resserré, est plus dense. C'est presque un huis clos parce qu'au fond, il y a deux maisons et la bijouterie. Il y a 4 personnages, 5 qui sont les personnages qui font exister. Donc, c'est très resserré et j'avais envie de trouver quelque chose qui marque un rythme très resserré. Je me suis dit, un braquage. On est dans quelque chose de resserré. Pourquoi ? Parce que quand le braquage commence, il faut qu'il soit déjà fini. On a tous en tête l'idée que le braquage, c'est l'urgence de se dire « mais comment est-ce qu'ils vont faire ?» ou « qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les flics seront là à temps ?» ou « est-ce que les bandits seront partis à temps avant les flics ?» Ça dépend de quel côté vous mettez. Pardon. Mais il y avait cette urgence qui était pour moi très importante.
Toutes les portes sont bloquées.
Alors ce braquage, Catherine, on ne sait pas jusqu'à la dernière page qui en sont les auteurs. En plus, comme vient de le dire Joëlle Dicker, il y a deux couples et un cinquième personnage qui sont mêlés à ce fait divers. Alors qui sont ces personnages ?
Eh bien d'un côté, vous avez Greg et Karine. Lui est policier, elle est vendeuse. Ils ont deux enfants assez turbulents. Ils vivent dans une maison modeste de la banlieue de Genève. Et de l'autre côté, leurs voisins et amis, Sophie et Arpad. Elle est avocate, très belle. Lui, banquier, très riches. Ils habitent une villa somptueuse. Leurs enfants, eux, sont parfaits. Bref, c'est le couple idéal, celui qui fait rêver tout le monde. Sauf que la réalité n'est pas celle qu'on croit. Et derrière les apparences, il y a bien des secrets que se cachent les époux, et ce, dans chacun des couples. Surtout quand surgit un cinquième et mystérieux personnage qui va, d'une certaine façon, faire tout éclater. Et la bombe, ce sera le fameux hold-up.
Donc un suspense qui est aussi psychologique. Et le titre du roman, Un animal sauvage, à quoi fait-il référence ?
À un livre, mais un livre inventé par Joëlle Dicker et que deux de ses protagonistes citent à plusieurs reprises, car c'est l'histoire fusionnelle d'un homme et de sa panthère qui vivaient ensemble jusqu'au jour où l'instinct de l'animal a pris le dessus et de domestique, il est redevenu sauvage. Et c'est exactement ce qui arrive à l'un des personnages de Joëlle Dicker. Du coup, je lui ai demandé si lui aussi, il avait une part animale en lui et si oui, ce qu'elle aimerait faire.
Retourner à l'état sauvage, il me manque un peu de contact à la nature. J'ai fait, plus jeune, beaucoup de camping, j'ai fait beaucoup de voyages seul, j'ai traversé un bout de l'Alaska, un bout du Yukon, j'étais dans des territoires perdus en Amérique du Nord. Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps et ça me manque. Ça me manque de plus avoir ce rapport à l'état sauvage, c'est-à-dire à quel point on se sent petit quand vous êtes dans votre petite tente, dans les herbes hautes et humides, au milieu des ours et des loups, vous vous sentez infiniment petit, et ce sentiment-là, il est très agréable.
La solitude, le retour à la nature, c'est très bien, mais c'est certainement pas, Catherine, ce que vit actuellement l'auteur, Joël Dicker, parce que son nouveau roman, il bat tous les records en termes de vente. Il a un peu l'habitude des records, d'ailleurs, il faut bien le dire, Joël Dicker. Et il fait une tournée hein, dans les festivals, dans les librairies, et chaque fois, l'attente des centaines et des centaines de lectrices et de lecteurs. C'est impressionnant. Hein.
Très impressionnant, ce succès phénoménal. Comme vous le disiez, des files d'attente à ne plus finir partout où il va. Je l'ai vu de mes yeux à Genève il y a quelques jours, des séances de signature qui durent des heures, où il est debout pour parler face à ses fans. Alors on savait déjà qu'il était traduit dans 40 langues, que c'est l'auteur de langue française le plus lu dans le monde, 15 millions d'exemplaires en seulement 10 ans, un peu plus même. Et là, Un animal sauvage démarre sur les chapeaux de roue. Est-ce qu'il s'y attendait d'ailleurs ? Alors réponse de l'auteur, puis de l'éditeur qu'il est lui-même, Joël Dicker.
Non, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est toujours une surprise et un grand bonheur de voir cet accueil, mais qui n'est pas un bonheur, évidemment je suis content moi, mais ce n'est pas tant un bonheur de l'ego qu'un bonheur du lecteur que je suis, du lecteur passionné, convaincu. Je suis absolument convaincu de la nécessité de lire et de faire lire, et je suis absolument convaincu que les gens aiment lire, que tout le monde aime lire, mais que tout le monde ne le sait pas encore, et que les gens ont besoin d'être poussés, encouragés, aiguillés, et que le défaut peut-être de la littérature et du monde de l'édition aujourd'hui encore, c'est de ne pas arriver à fédérer les gens ensemble. Ce que le sport a su faire, ce que la musique a su faire, ce que les séries télé ont su faire, et la littérature toujours pas. Et donc quand je vois cet engouement pour lire, pas pour lire mon livre, mais pour lire, ça me touche beaucoup et ça me convainc qu'il y a encore beaucoup à faire, mais qu'il y a quelque chose à faire là maintenant tout de suite, pour l'édition, pour le monde de l'édition dans sa globalité, pour lire et faire lire.
C'est le meilleur démarrage d'un de vos livres ou pas ?
C'est le meilleur démarrage d'un de mes livres, oui.
Et là, c'est l'éditeur en vous qui doit se poser des questions, parce que je crois que vous avez fait un tirage à 500 000 exemplaires, donc vous êtes déjà en train d'imaginer qu'il va falloir retirer des exemplaires ?
On avait tiré 450 et on en a retiré 50 000. Mais l'éditeur en moi, vous savez, il est, j'arrive très bien à faire la différence entre l'éditeur et l'auteur, puisque je suis le... Pas l'éditeur, je suis le patron de la maison d'édition qui édite mes romans. Et c'est important de faire cette différence, parce que c'est évidemment pas moi qui relis mes textes en me disant « Mon chéri, bravo, c'est extraordinaire ». Mais je suis capable, comme éditeur, de me dire « Voilà, il y a des enjeux que je comprends et qui font qu'on va en tirer 450 000 ». Et l'auteur regarde tout ça en se disant « Mais 450 000, attendez, qui va les acheter ? Parce que si à mes parents, ça fait 2, et mes cousins, ça fait peut-être 10, comment on va faire ?» Vous savez, les deux, l'auteur et l'éditeur que je suis, ont un point commun, ils sont très superstitieux. Et donc j'essaye d'être très superstitieux, c'est terrible. Et donc je me dis, bon, on va oublier ces informations, je garde un œil dessus, évidemment, parce qu'il faut, mais je vais voir un peu ce qui se passe.
Voilà, Un animal sauvage de Joël Dicker est publié chez Rosie & Wolf et l'intégralité de cette rencontre est à écouter comme toutes les semaines dans le podcast de Café Polar sur Pure Radio et toutes les plateformes.
Votre invité demain dans Littérature sans frontières, Catherine ?
Alors, je vous emmène au Cameroun pour une émission spéciale à Yaoundé où le lauréat du 4e prix Voix d'Afrique, le prix littéraire de RFI avec les éditions Jean-Claude Lattès, donc, il vient d'être couronné. Le jeune homme s'appelle Ninsemon Falé, il est ivoirien et son premier roman s'intitule « Ces soleils ardents ». Je vous donne donc rendez-vous avec lui demain.
Quant à nous, nous recevrons la danseuse et chorégraphe Betty Chomanga qui devient Mami Wata, vous le savez, la divinité mi-femme, mi-poisson de la cosmogonie vaudou. Mascarade, son spectacle, est à l'affiche du Théâtre de la Bastille à Paris. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.